Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
This is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power jusqu'à 20h30 en direct. Comme chaque dimanche, Soft Power, magazine de France Culture consacré à la politique culturelle, aux industries créatives, aux médias ainsi qu'au numérique et à l'innovation. Sans la musique, la vie serait une erreur. La phrase célèbre de Nietzsche dans, je crois, c'est Le Crépuscule des Idoles, c'est ça?
Oui, c'est une phrase tronquée, elle est plus longue normalement.
Elle est plus longue, toutes les phrases sont plus longues. Bonsoir Carole Beffa.
Bonsoir Frédéric.
Cette phrase donc peut nous servir de devise, de maxime ce soir pour cette émission consacrée à la musique. Ce que le numérique fait à la musique classique, tel est le sujet de cette émission ce soir. Et nous allons donc nous intéresser aux mutations de l'écoute de la musique en général et du classique en particulier, entre streaming, abonnement illimité de type Spotify, Deezer, Qobuz ou Apple Music, et aux conséquences que ces mutations ont pour les artistes et les mélomanes de tout poil. Je reçois ce soir pour décrypter ces mutations donc le compositeur Carole Beffa. Bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Vous avez été récompensé vendredi soir aux Victoires de la musique classique, meilleur compositeur de l'année. Bravo.
Merci.
À vos côtés, face à vous, Marc Voinchet, bien connu des auditeurs de France Culture qui l'ont écouté longtemps dans les matins et qui dirige aujourd'hui France Musique, une chaîne du groupe Radio France. Bonsoir Marc.
Et bonsoir Frédéric Martel.
Et puis nous recevons également Josquin Farge, le cofondateur de Sounds Good, qui nous parlera de l'état du streaming en début d'émission et qui sera également à 20h ZOSFest votre invité innovation.
Et oui, parce qu'on parlera, on concentrera sur Sounds Good et ce que fait cette start-up que vous avez fondée il y a 4 ans, de la curation, terme emprunté plutôt au monde de l'art, mais qui est évidemment une question absolument cruciale à l'ère du streaming.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
20h10. 20h10, le numérique est politique. Le débat de ce soir sera consacré à la question du patriotisme économique appliqué aux start-up. Et nous serons pour en débattre avec Séverin Naudet, ancien conseiller de François Fillon pour le numérique à Matignon, aujourd'hui consultant en innovation et disruption au cabinet de conseil Tilder, et Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande, consultant numérique. Voilà pour le sommaire de cette émission, de ce magazine Soft Power ce soir. Émission réalisée par Thomas Beau, elle a été préparée par David Lavaux. Et vous pouvez suivre cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, ainsi que sur Instagram, Medium, Facebook, en podcast et sur France Culture jusqu'à 20h30 en direct. Bonsoir à tous. Pour commencer cette émission, nous sommes avec Josquin Farge, fondateur de Sounds Good. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler de votre start-up, mais comment dire, puisqu'on vous avait sous la main, eh bien, on souhaitait parler avec vous de streaming. Alors peut-être on peut commencer par une question toute simple pour ceux qui ne sont peut-être pas complètement dans le monde numérique. C'est quoi le streaming ?
Alors le streaming, déjà, on va parler du streaming musical. C'est le fait d'écouter la musique via un flux audio en continu. Et on va l'opposer au téléchargement, qui lui consiste à télécharger un titre et le stocker sur un device, donc un ordinateur, un téléphone, un disque dur. Là où le téléchargement, on possède la musique, avec le streaming, c'est comme un abonnement, enfin, on loue la musique, on a des services qui nous donnent accès à des catalogues musicaux, qui aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, contiennent 30 à 40 millions de titres. Et donc, c'est ça, le streaming, c'est le fait de pouvoir écouter la musique en ligne, d'avoir accès à ces catalogues musicaux.
Alors, le streaming, ça peut être de la vidéo, on pourrait évoquer Netflix en l'occurrence, ça peut être du jeu vidéo avec Steam, ça peut être, pourquoi pas, d'une certaine manière, c'est pas exactement pareil, mais des livres via des services d'abonnement illimité de type, par exemple, Amazon, ce qui se passe avec les services mis en place. Mais c'est d'abord et avant tout, pour ceux dont on parle ce soir, de la musique. Les grands services, quels sont-ils et quels sont, à la fois au niveau mondial mais aussi en France, les proportions en termes d'écoute de ces différents services existants, Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited, Deezer, Napster, mais aussi Qobuz, etc.
Et surtout YouTube, qui aujourd'hui fait partie quand même de la galaxie des services de streaming et qui capte une grande partie des écoutes des auditeurs.
On pourrait dire d'abord YouTube.
Oui, voilà.
D'abord YouTube dans une offre gratuite et limitée.
Alors, comment on peut structurer le marché ? Déjà, oui, on peut le diviser entre offre gratuite et offre payante. Les offres gratuites, donc typiquement, ça va être un service comme YouTube qui, lui, permet d'accéder à un catalogue en ligne contre de la publicité. Après, il y a ce qu'on appelle les offres premium.
Donc un abonnement qu'on paye chaque mois.
Un abonnement, en moyenne 10 euros par mois. On a des abonnements aussi à 20 euros par mois pour des services avec un son de haute fidélité, souvent comme Qobuz ou Tidal. Et après, il y a les formats un peu hybrides qu'opèrent Deezer ou Spotify, qui sont ce qu'on appelle freemium. C'est-à-dire qu'il y a une partie free, on peut accéder à Deezer et Spotify
gratuitement,
contre écoute de publicité. Et on peut aussi souscrire un abonnement premium pour écouter de manière illimitée la musique. Ça, c'est une manière de distinguer le marché avec ces trois modèles économiques. Et après, il y a une autre manière de le distinguer qui est par les typologies d'acteurs et leur taille. Et là aussi, il y a grosso modo trois grandes familles. Ce qu'on appelle les pure players. Donc, c'est des acteurs qui sont internationaux.
Mais qui ne font que ça.
Qui ne font que ça.
Donc, Spotify, Deezer.
Spotify, Deezer, Napster, anciennement RDO. Vraiment, ces services ont un grand mérite. C'est eux qui ont démocratisé le streaming, souvent issus de l'Europe, avec le français Deezer, avec le suédois Spotify.
Et avec SoundCloud en Allemagne.
SoundCloud, exactement, etc. Ils ont été aussi beaucoup aidés dans leur démarche de démocratisation du streaming par les opérateurs télécoms, parce qu'ils les ont souvent mis en bundle avec les offres, Orange avec Deezer, Napster avec SFR, etc. La deuxième typologie, les GAFA, donc ces géants de l'Internet, qui, eux, se positionnent sur le marché du streaming parce que la musique, c'est le bien culturel le plus consommé au monde et que, malheureusement ou heureusement, c'est un produit d'appel pour vendre d'autres services, d'autres produits. Apple a lancé son service, Amazon a lancé le sien et en plein développement marketing en ce moment. Évidemment, Google avec YouTube et avec Google Play et prochainement un service qui a encore un nom de code qui s'appelle YouTube Remix. Certains GAFA, enfin élargis les GAFA puisque Microsoft ne fait pas partie des GAFA, mais un service comme Microsoft a aussi essayé, il n'a pas réussi à s'imposer et du coup maintenant il est en partenariat avec Spotify. Mais voilà, ça c'est la deuxième typologie, c'est vraiment ces géants de l'internet qui maintenant...
Alors ça donne quoi en termes de nombre d'abonnés si on prend cette classification qui en vaut une autre?
Les chiffres sont toujours un peu flous parce que c'est pas tout le temps des données publiques. Elles le sont quand un acteur comme Spotify ou Deezer cherche à entrer en bourse et ils disent...
C'est le cas de Spotify en ce moment.
Voilà, c'est ça. Alors, par exemple, sur le marché français, on considère qu'il y a 4,4 millions d'abonnés à ces offres de streaming par abonnement. Deezer reste leader. La tendance est en train d'évoluer avec Spotify. Et Napster a quand même une part de marché assez importante en France due à leur bundle justement avec SFR.
Et après, alors le bundle, ça veut dire que des compagnies de téléphonie mobile vous proposent un service moins cher ou parfois inclus dans l'offre. C'était le cas longtemps de Deezer avec Orange.
Exactement.
C'est le cas de Spotify avec Bouygues et en l'occurrence, même si ça a été arrêté, et donc en l'occurrence de Napster avec SFR pour l'option payante.
Exactement. Et donc 4,4 millions pour la France. Après, un service comme Spotify aujourd'hui revendique 100 millions d'abonnés payants au niveau mondial. Donc c'est énorme parce que ces chiffres, en fait, il y a une croissance du marché du streaming ces dernières années l'an dernier de 46%, il me semble, mais c'est toujours des 50% de croissance par année. Donc c'est quelque chose qui se développe.
Ça veut dire qu'au niveau mondial, Spotify, autour de 100 jusqu'à, dit-on, peut-être 140 millions d'abonnés, est quasiment 10 fois supérieur que Deezer.
Oui, aujourd'hui oui. Spotify a vraiment pris un coup d'avance.
Le numéro 2 serait Apple Music, récemment rentré dans ce marché, mais avec une progression très forte, liée notamment à des abus de position dominante, puisque lorsque vous avez un iPhone, lorsque vous avez un ordinateur Mac, on vous propose presque chaque jour, c'est difficile de l'éviter, de souscrire gratuitement au début à Apple Music. Et comme ça, hélas, j'aurais presque envie de dire, parce qu'il y a un vrai abus de position dominante, ils ont réussi à devenir numéro 2 du marché très rapidement.
En effet, c'est un effet de levier pour eux. Après, ils ont aussi un marketing qui est très fort. Ils ont une marque qui est très forte. Ils ont aussi pris une position sur la curation humaine versus algorithmique, etc. Donc, c'est pas uniquement l'effet de levier lié à cette position dominante, mais c'est un service qui a vraiment une place à prendre. Et aujourd'hui, ils sont encore derrière Spotify, mais c'est vrai que la croissance est très forte, surtout sur le marché américain.
Troisième dans ce domaine, on le sait peu, mais c'est aujourd'hui Amazon Music Unlimited.
Oui. Alors Amazon Music, idem. Vraiment, l'objectif, c'est de bundleiser leurs offres. Donc, ils ont Amazon Prime. Quand on est abonné à Amazon Prime, on a une réduction pour avoir accès à Amazon Music Unlimited. Et ils ont cette capacité. Déjà, ils touchent des millions de consommateurs au niveau mondial. Donc, c'est des gens qui connaissent la marque Amazon et qui sont peut-être plus susceptibles de souscrire à ces offres. Et autre avantage très fort d'Amazon, c'est qu'ils se sont positionnés sur ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Donc ils ont ces enceintes et cette technologie Amazon Echo où on demande à Alexa de nous jouer une musique, de la musique classique.
On peut considérer etc. que c'est peut-être une forme de prescripteur, on en parlera au cours de cette émission, mais le prescripteur à venir, les enceintes deviennent des prescripteurs, les enceintes vous font des recommandations.
Exactement. Et maintenant, dans les maisons de disques, il y a toujours des personnes dédiées à ces sujets, de comprendre les évolutions de la musique, comment ces enceintes vont guider la découverte musicale des auditeurs et la consommation de la musique.
Quatrième dans le marché, dit-on, en pourcentage et en nombre, Deezer, donc le français, ouais. Qui avait une offre liée à Orange, on l'a dit, qui est aujourd'hui de moins en moins fréquemment proposée, elle est payante, et Deezer qui est un français qui a été, comment dire, qui a peu été soutenu finalement par Orange et qui se retrouve de plus en plus en difficulté et de moins en moins français en réalité.
Alors, j'ai peut-être un biais, mais c'est vrai que nous on a beaucoup, c'est très impressionnant ce que fait Deezer. D'avoir dans le marché des pure players, c'est le numéro 2 derrière Spotify. C'est un service qui est très performant. Après, le problème, c'est qu'il y a quand même des effets un peu de réseau. Et c'est vrai que soit les GAFA arrivent à attirer parce que c'est en bundle, soit les pure players doivent vraiment tirer leur épingle du jeu. Il y a un effet de concentration. C'est que dès qu'un moment, on trouve que Spotify est plus cool que Deezer, ça attire les gens vers Spotify. Et c'est assez dur de lutter. Et Deezer le fait très bien. Après, Deezer a pris une politique de s'imposer sur beaucoup de marchés à la fois. Ils ont essayé de conquérir rapidement le monde et de laisser un peu les États-Unis de côté. Ça n'a pas forcément été payant. Je sais que maintenant, Deezer se concentre beaucoup sur l'Asie. Deezer reste un acteur très important, très innovant et chapeau parce que être pure player sur ce marché, c'est pas facile.
Alors notamment chapeau et innovation avec quelque chose qu'on a découvert tout récemment. Le tweet d'ailleurs, on vous mettra ce document pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux hashtag softpower cette émission. Deezer est en train de négocier d'ailleurs un peu secrètement un accord avec les labels, avec les maisons de disques, peut-être même avec d'autres. On peut imaginer ceux qui créent des playlists, soit les artistes eux-mêmes, soit pourquoi pas des chaînes de radio, peut-être France Musique un jour. Ce qu'ils appellent Deezer Sponsored Tract, derrière ce nom en anglais et un long PDF qui propose leur système, c'est en fait un système de publicité. En fait, concrètement, quand vous allez écouter une playlist, vous aurez mêlé à cette playlist des morceaux dont vous saurez ou vous ne saurez pas. Il n'est pas dit encore clairement si la notion de sponsoring apparaîtra. On aura concrètement donc des labels qui auront payé pour figurer sur une playlist. C'est ce qu'on appelait jadis la payola, qui au passage, je rappelle, était illégale, qui a été condamnée très durement aux États-Unis, notamment par le gouverneur, enfin en l'occurrence le département de la justice de l'État de New York. Et donc on voit que, alors comment pourrait-on expliquer ça? Est-ce que c'est parce que le modèle économique de ces pure players est très difficile? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller vers les labels pour leur demander de payer des tracks sponsorisés, c'est-à-dire des morceaux de publicité?
Déjà, les labels viennent vers eux naturellement, parce qu'aujourd'hui, Deezer ou Spotify, ce n'est pas des plateformes, ce n'est pas des flux de musique, c'est des leviers marketing. C'est eux qui décident de ce que vont écouter les gens. Donc, c'est un vrai levier marketing. Et naturellement, les labels viennent les voir. Après, pourquoi je le distingue de la payola? C'est que la payola, c'était vraiment obscur. C'était...
Là, pour l'instant, c'est obscur aussi. On a eu le document par une maison de disques qui nous l'a donné. C'est pas du tout public. Peut-être oui, que les titres apparaîtront comme étant sponsorisés. On verra. Pour l'instant, on ne sait pas.
Une start-up comme Feature FM, qui opère ce type de track sponsorisé, est une boîte complètement publique. Son offre est en ligne, etc. Je vois très bien où est la limite à ce modèle, c'est que l'auditeur ne sait pas que c'est une publicité, mais dès l'instant où on sait que c'est une publicité et que c'est limité dans le temps, qu'il n'y en a pas, tous les titres ne sont pas des publicités.
Dans l'occurrence, ça sera au bout de 3 titres, puis au bout de 6 titres, voilà. Etc., selon le document diffusé. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que lorsque vous avez une playlist, a priori, elle est basée soit sur vos écoutes précédentes, soit sur les écoutes de la masse, soit sur les écoutes d'influenceurs qui sont des gens, des artistes, des DJ, des gens qui ont défendu des goûts parce qu'ils aimaient les artistes. Là, vous allez avoir des morceaux de musique qui vous sont imposés et qui ont été payés.
Non, pas Frédéric Martel, on avait la dernière fois ici quelqu'un qui travaillait pour Spotify et qui commençait à faire de la musique avec intelligence artificielle. Et on a la preuve aujourd'hui que Spotify a inséré des titres dont il a lui-même les droits, plusieurs millions.
Oui, mais c'est encore autre chose.
Et qu'il a choisi arbitrairement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de limpide aujourd'hui, comme vous le disiez, enfin, comme vous laissiez entendre, dans la manière dont on concocte vos playlists sur les sites de streaming. Et en tout cas, il n'y en a pas.
J'ai pas eu le document auquel vous faites référence, mais il se trouve que, a priori, ces publicités interviennent que dans le format de l'abonnement, du service gratuit d'un Deezer ou d'un Spotify, qui, lui, n'a pas vocation à perdurer. Là.
C'est pas dit du tout. Je pense que c'est aussi pour le payant, bien sûr.
Ouais. Alors, normalement, quand un abonné paye, il n'a pas de publicité. Donc, dans ce
non, mais c'est pas des publicités, puisqu'il s'agit d'un morceau de musique. Sponsorisé. Simplement, il a été sponsorisé. C'est pas une pub. C'est un morceau poussé par un label ou par une maison de disques, etc. Bon, restons-en là pour ce débat. C'est un peu long.
C'est au moins de la musique. C'est au moins de la musique. Ça sera pas comme sur YouTube quand on vous êtes interrompu dans votre choix sur, par les publicités de lessives, de billets d'avion ou autre chose.
De tests, donc, de contraception. Voilà.
Et on peut penser qu'avec les algorithmes, les gens seront assez malins pour que, justement, le morceau en question sponsorisé corresponde à peu près à vos goûts. Qui sait?
C'est un placement de produit, on pourrait dire. Carole Beffa, peut-être pour sortir par le haut de ce débat, qu'est-ce que, on s'adresse à vous, et dès qu'on veut parler de bateaux ivres et autres morceaux de musique qu'on écoutera tout à l'heure, qu'est-ce que vous inspire cette évolution, et notamment pour la musique classique, vers le streaming?
D'abord, on a fait quand même des progrès en la matière, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le classique était un peu le vilain petit canard de ce point de vue. Je me souviens, pour un des tout premiers disques de ma musique, en 2006, parce qu'il y avait une pièce en deux mouvements qui s'appelle Masque, dont chacun des mouvements était supérieur à 10 minutes, il était impossible de la télécharger seul, de façon payante, par exemple sur iTunes, parce que 10 minutes, c'est un format trop bizarre et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on peut avoir dans la variété, dans la pop, où, en règle générale, vous n'avez pas de chansons qui dépassent les 3 minutes. Donc vous étiez obligé d'acheter la totalité du disque et on arrive maintenant à des choses un peu moins bizarres. En revanche, on est encore à des années-lumière d'un référencement qui serait idéal. Et je sais pas, Alex Ross, un grand blogueur, journaliste
au New Yorker,
faisait remarquer que lorsque vous vouliez, par exemple, écouter un extrait, je pense que c'était la 5e symphonie de Beethoven, eh bien, vous aviez, de façon très bizarre, le nom d'un des interprètes qui allait apparaître, pas forcément d'ailleurs le chef d'orchestre, vous étiez incapable d'avoir la totalité des mouvements qui constituent cette symphonie dans l'ordre, l'idée étant qu'une écoute aléatoire était finalement peut-être préférable à une écoute successive des mouvements. Bon, bref, il y a encore des efforts à fournir.
C'est encore le cas d'ailleurs. Mais justement, on l'a pas dit tout à l'heure, vous listiez ces choix de... Aujourd'hui, les plus grands opérateurs, mais il y a une question cruciale qui est celle du catalogue. Et évidemment, tous, et notamment Spotify, a fait des coups de maître, entre guillemets, en achetant, et là c'est toujours très opaque, on ne sait pas sous quelles conditions, parce que certains grands artistes peuvent se permettre de négocier avec ces plateformes. Spotify avait conquis haut la main le catalogue, par exemple, des Beatles, ce qui avait été déterminant pour pas mal d'abonnés. Et la question aussi de la présence du catalogue, et notamment des compositeurs contemporains sur ces plateformes, elle se pose, parce que là-dessus, les plateformes ne sont pas du tout aussi bien fournies les unes que les autres.
Tout à fait, pour une raison assez simple, hein, qui est que, en règle générale, dans le milieu qui n'est pas celui de la musique contemporaine, à vrai dire, qui n'est même pas celui de la musique classique, au sens large, vous ne faites pas de distinction entre l'interprète et le compositeur. Vous avez quelqu'un qui est connu comme l'artiste, éventuellement le chanteur, et c'est évidemment quelque chose de très différent quand il s'agit de musique classique.
Donc, pour résumer, quand on écoute du rock, de la pop, du jazz, même parfois, vous écoutez Miles Davis, vous écoutez exactement. Bob Dylan, vous savez, il y a peut-être quelques versions, il y a une version live, etc., mais c'est assez facile. La musique classique, c'est très complexe.
Exactement. Vous avez en général une œuvre avec un compositeur, mais où un compositeur et un librettiste, s'il s'agit d'un opéra, ou bien quelqu'un qui en a fait les paroles, s'il s'agit par exemple d'une mélodie, d'une pièce chorale. Et puis vous avez des versions, autant de versions qu'il peut y avoir d'interprètes qui l'ont enregistré.
Avec un chef d'orchestre, avec un orchestre, c'est pas parfois pas le même, enfin, je veux dire, ça peut changer.
Il peut y avoir un interprète qui a enregistré.
Karajan a enregistré plusieurs versions dans plusieurs orchestres. Ensuite, il y a des voix, il peut y avoir un pianiste, etc. Et ça, on ne le trouve pas sur Spotify. C'est très très difficile de rentrer tous ces critères qui se limitent au-delà de deux. Le moteur de recherche, généralement, ne propose pas de solution. Ou alors, il vous propose 500 réponses, et là, c'est très très difficile d'aller trouver la bonne, Marc Voinchet.
Non, mais c'est le cœur du problème aujourd'hui, le cœur de cette question-là, et c'est pour ça qu'à cet instant précis de l'émission, je vais faire un placement produit, c'est le travail que nous faisons à francemusique.fr, mais je vous signale que c'est un travail que nous faisons et qui est extrêmement compliqué.
On a dit de ne pas citer de marque, hein, monsieur.
Sur francemusique.fr, non mais c'est l'indexation. Le secret de la chose, il est dans l'indexation. Carole Beffa est mieux placé que moi pour le dire, c'est que c'est plus facile de référencer Happy Pharrell Williams que les concertos brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec les BWV. C'est un travail qu'il faut faire, et en plus l'indexation ne se fait pas pareil qu'on soit en français, en espagnol ou en anglais ou en allemand.
Le nom de l'orchestre change.
C'est même pour ça que nous allons lancer bientôt un francemusique.com en anglais, pour que le catalogue que nous mettons, nous, alors on est modeste, on sera un jour le YouTube de la musique classique à France Musique, mais pour l'instant on démarre. Mais c'est vrai que si on sait très bien que sur un moteur de recherche, personne ne va taper je veux écouter un concert du Royal Philharmonie, on va taper la flûte enchantée. Bon, mais si on est français, on va taper la flûte enchantée, pas si on est anglais. Il y a que Carmen qui échappe à peu près, la Traviata qui échappe à peu près,
Tosca,
voilà, il y en a quelques-uns. Mais c'est vraiment la question de l'indexation, c'est-à-dire que si on veut se retrouver en face des usagers aujourd'hui, et en face, c'est-à-dire très vite dans le référencement, il faut régler cette question du référencement, mais elle n'est évidemment pas simple.
Alors c'est aussi la question des métadonnées, la question des noms, on l'a dit, différents pour le rock, etc. Pourquoi est-ce que, selon vous, des sites comme Spotify, Deezer n'ont pas créé peut-être une sous-version, enfin une espèce de plateforme où on rentrerait non plus juste par le moteur traditionnel, mais par un moteur adapté à la musique classique, qui leur permettrait d'avoir Prokofiev, concerto pour piano, vous avez André Previn par exemple, l'Orchestre Symphonique de Londres, et puis vous savez que c'est...
Oui, quand vous dites concerto
Ashkenazi
pour piano,
au piano,
quand
c'est
vous dites
compliqué.
Concerto pour piano, ça marche pas aux États-Unis. Au piano, aux États-Unis, il faut remarquer piano concerto. Rien que ça déjà, ça vous donne une étendue du travail qu'il y a à faire pour le référencement. Alors je pense que c'est une question de moyens. Et il faut le faire. Il y a des algorithmes, c'est vrai, l'ordinateur, le numérique, le digital, c'est génial. Mais s'il y a personne d'humain qui rentre des données à un moment ou à un autre précises, ça ne marchera jamais, ça se fera pas.
Il y a aussi une règle dans les services de streaming, c'est dans tous les services tech innovant, c'est de la simplicité de l'expérience utilisateur. Et que aujourd'hui, la clé d'entrée, c'est pas le moteur de recherche. La clé d'entrée, c'est la homepage, où on va aller tout de suite rentrer dans une playlist qui a été conçue par Spotify ou par Deezer, et l'expérience se lance
par
tout
des
suite.
Individus ou par des influenceurs.
Voilà, majoritairement par Spotify et Deezer quand on est sur ces plateformes. Et c'est déjà dans une logique de simplicité de l'expérience utilisateur. Et c'est vrai que pour ça, la musique classique est un peu à part, parce que c'est une complexité qu'on ne retrouve pas dans les autres styles de musique. Et de là à demander à ce que toute la plateforme s'adapte à la musique classique, aujourd'hui c'est un peu complexe. Alors ça donne la possibilité à des plateformes comme Qobuz de se lancer sur cette verticale et d'être très pertinent.
Ou francemusique.fr.
Pardon.
francemusique.fr. Parce que nous c'est gratuit. On a un avantage sur les autres, c'est qu'on est gratuit.
Oui, enfin après il y a une différence aussi, c'est que quand vous êtes sur un site de streaming, vous choisissez la musique que vous allez écouter. Ce qui n'est pas le cas, cher Marc, malgré tout, de France Musique, et même pas des web radios, puisque vous avez un flux et vous le suivez. Si vous ne l'aimez pas, vous avez beau avoir cherché l'idée de changer de morceau, il ne part pas.
Vous êtes mauvais camarade, on a un très bon moteur de recherche sur francemusique.fr qui fait qu'on a écouté à peu près tout ce qu'on veut écouter quand on se met sur cette barre de recherche. Non, mais après, c'est toujours pas celle-là. Par exemple, je vous parle de ça et je vous taquine, mais ça n'est qu'un début. C'est-à-dire que ça ne peut marcher au bout d'un moment que quand on met beaucoup, évidemment, de choses bien référencées et qui font, après, par des effets d'algorithmie, qui font qu'on l'usager va se retrouver très vite avec d'autres propositions derrière, au choix qu'il aura fait initialement.
Josquin Farge, Carole Beffa, Marc Guinchet, est-ce qu'on vous diriez les uns les autres, Zoé Sfez, que la playlist est le nouvel album finalement, la nouvelle manière de rentrer dans la musique?
Oui, on parle de la playlist comme le nouvel album, comme la nouvelle radio. Oui, en effet. Alors c'est très vrai pour les musiques pop, parce que
pas vrai du tout pour la musique classique.
On fait des compilations, etc. Et même c'est issu, en fait, on parle de playlist, mais dans la culture hip-hop, la culture urbaine aujourd'hui est numéro un sur les plateformes de streaming. La culture hip-hop, moi j'ai grandi avec ça. C'est la mixtape. C'est qu'il y a un DJ qui va remixer, qui va prendre les différents sons, les nouveautés, qui va les mettre ensemble, etc.
Et on est très performant en France, notamment là-dessus. On est le deuxième marché, je crois, après les Américains.
Oui, voilà,
sur le hip-hop et le rap.
Et donc oui, en effet, la playlist aujourd'hui est le nouvel album. Et ça oriente aussi la création musicale, parce qu'aujourd'hui on travaille un single pour être présent dans les playlists plutôt que tout un album.
Alors effectivement, c'est tout à fait vrai, et vraiment, véritablement vrai pour toute une série de genres de musique. Évidemment, la pop et la musique dite urbaine. Mais alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que sur la musique classique, ça marche très très mal, parce que vous vous retrouvez avec des bouts, des premiers morceaux d'une symphonie collés avec complètement autre chose. Et même si l'algorithme peut être pertinent, vous vous retrouvez avec des espèces de pièces isolées où ça change complètement d'ambiance.
Non, mais ça dépend qui a fait la playlist.
Je vous le dis clairement, je suis, malheureusement, je balance, j'y vais, je suis sur Spotify, et je peux vous assurer que déjà, le mode de lecture de base sur Spotify, en général, c'est la lecture aléatoire. Il faut que vous fassiez un effort pour dire, voilà, cet album-là ou ce truc, je vais l'écouter dans le bon sens. Donc, vous devez le penser. Et en l'occurrence, même si c'est des choix souvent pertinents par l'algorithme, ça reste quand même extrêmement décousu.
Mais c'est pour ça que pour le classique, il faut aller sur francemusique.fr et pour le hip-hop, il faut aller sur Move, tout simplement. Et là, c'est la référence, c'est l'excellence. Non, mais pourquoi, je plaisante, mais pourquoi? Mais parce qu'après tout, je pense que, et l'expérience de Josquin à côté de moi est intéressante quand il parle de curateur, le mot est emprunté. C'est que, on voit bien que ce qui peut marcher davantage, c'est quand on voit que les choses sont incarnées. Les web radios, moi, les 7 web radios que j'ai à France Musique, elles ne sont pas faites par les algorithmes, elles sont faites par des gens. Alors ça, il y a des gens qui vous regardent comme si on était un peu des dinosaures. Non, parce que c'est quelque chose qui s'incarne, qui est choisi et qui est proposé où l'humain est derrière. Et sur la question de la musique, elle n'est pas, c'est pas n'importe quoi cette question-là.
Quelles sont ces 7 web radios?
C'est les web radios.
Peut-être on peut en parler une seconde.
Non, mais c'est oui. Parce
que donc il y en a une exagérer. Sur le Easy, ça s'appelle, en bon français.
Il y a une Easy classique, il y en a une aussi, il y a les œuvres en intégralité. Il y en
donc
a une
plus, qui, elle s'appelle plus,
la classique plus, ouais. Plus. Il y en a une qui est consacrée aux formations de la maison, aux orchestres, aux quatre formations, au concert. Il y a une jazz, il y a une contemporaine, il y a une musique du monde.
Contemporaine, ça commence quand à peu près?
C'est après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale.
1945.
Voilà, 45-46. Il y a une jazz et il y a une BO, parce qu'on a, on voulait évidemment soutenir aussi l'idée que la musique de film, les compositeurs de musique de film sont des compositeurs à part entière.
D'autres projets créer quoi?
Oui, ben j'aimerais créer, trouver des astuces. D'abord, faire quelque chose par rapport aux juniors, parce que si on fait pas ça à nos services publics, qui le fera? Bon, mais c'est, vous me parlez de ça, j'y réfléchis, je suis en train. C'est même de ça date de cette semaine-là. Et après, je pense qu'on pourrait s'amuser un peu plus, faire des web radios sur des questions un peu thématiques. Ça existe déjà beaucoup aux États-Unis pour faire la musique classique pour le workout. On pourrait faire quelque chose pour les amoureux. On pourrait faire la web radio de la sieste, il y a des tas de choses comme ça à imaginer.
La web radio du chagrin d'amour,
voilà, il y a plein de choses à imaginer encore et à jouer.
Alors je vous propose d'écouter justement une version qui pourrait peut-être se retrouver sur cette création que vous allez faire, donc une web radio dédiée aux jeunes avec 3 versions qu'on va écouter et bientôt une 4e va arriver. Écoutez.
Et maintenant, voici le conte.
Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin.
Dis Pierre, tu penses à fermer la porte?
Il va y penser.
Ah oui, il était en l'air.
Et s'en alla dans les grands prés verts.
Un beau matin, petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts.
Vous aurez évidemment reconnu plusieurs versions de Pierre et le Loup, de Prokofiev, en l'occurrence François Morel, Denis Podalydès et Michel Galabru. On aurait pu diffuser aussi Gérard Philippe, ou pourquoi pas Jean Richard.
Là, François Morel, c'est une version maison. Hein.
Absolument.
Superbe application de Radio France, avec Daniel Egati, le directeur de l'Orchestre National de France,
bientôt,
qui est génialissime.
Oui, oui. Bientôt, nous allons en rajouter une, peut-être.
Oui, le président de la République.
Emmanuel Macron, qui, le 1er mars, va lui-même être... Le récitant, vous en pensez quoi, Marc Boinchet? Vous aimeriez le diffuser?
Je n'en pense que du bien, évidemment, puisque de toute façon, on va quand même pas faire la fine bouche. Et pour une fois, qu'on a un président de la République, quoi qu'on en pense, hein, mais qui est mélomane et lui-même musicien, moi, je dis bravo. Et d'abord, il le sait, il est invité évidemment à venir un jour nous parler de musique sur France Musique.
Et peut-être quelqu'un sur son smartphone va l'enregistrer, puisqu'il y a 200 invités, dit-on, qui écouteront le président de la République faire cette lecture.
Confisquer les portables, je ne sais pas.
Être octobre, on va confisquer les portables.
Non, mais cela dit, un président de la République mélomane, c'est pas négligeable, hein, objectivement, parce que le secteur de la musique, il y a quelque chose d'assez scandaleux parfois en France, on va le dire avec les
politiques. Mais nous, publics. On l'a pas critiqué, on l'a diffusé.
Musique, non, mais regardez la question de Ravel qui est toujours pas totalement réglée sur des tas de questions un peu, voilà, pas très nettes. La maison Georges Bizet qui a failli disparaître. Enfin, tout ce qui concerne le patrimoine littéraire et pictural et choyé, sauvegardé, et tant mieux, je trouve qu'on néglige un peu en France la question du patrimoine musical. Je ne sais pas ce qu'en pense Carole Beffa, il faut un peu le dire. Quoi.
Un président de la République qui est passé par le CNR, qui s'appelait le Conservatoire national de la région d'Amiens, en piano, un premier ministre qui a fait beaucoup de percussions et du violon, je crois,
absolument.
Et un ministre de l'économie qui est un très bon pianiste amateur et qui a écrit sur la musique. Ouais, ouais. Tout à fait.
Mm-hmm. Bien.
Bruno Le Maire.
Carole Beffa est compositeur, Marc Voinchet, directeur de France Musique, Josquin Farge, fondateur de Sounds Good. Ce sont mes invités ce soir pour Ce que le numérique fait à la musique classique, une émission où on va essayer de rentrer peut-être encore plus dans un certain nombre de ces questions. Dans les minutes qui viennent, juste après, écoutez justement un de vos morceaux, celui qui a été primé, Carole Beffa, ce vendredi soir, puisque vous avez gagné une victoire de la musique, la victoire de la musique comme compositeur. Peut-être un mot sur ce titre, dont le titre est emprunté bien sûr
tout à fait,
à Rimbaud.
C'est le bateau ivre. Très souvent, vous êtes obligé...
Comme je descendais des fleuves impassibles.
Bravo, je sais que vous êtes un grand amateur.
Mais encore.
Aussi l'auteur, oui, c'est Rimbaud. C'est Arthur Rimbaud. Mais ce que je voulais dire, c'est que très souvent, vous êtes obligé, à la faveur des programmations, de donner un titre très en amont. On vous commande une œuvre, c'est comme ça que ça se passe dans le milieu de la musique contemporaine. Et puis, quelques mois avant même que vous l'ayez conçu dans votre esprit, de vous donner un titre. Donc il m'arrive de donner des titres très poétiques que j'emprunte tout simplement à des très grands poètes.
À Baudelaire, à Rimbaud.
Voilà, qui s'appelle Baudelaire ou Rimbaud.
Mais vous savez pas ce qu'il y aurait dedans, juste c'est l'idée de...
Ah non, mais avec le bateau ivre, l'avantage c'est que d'abord le titre sonne évidemment très bien en soi, et puis ça peut suggérer des choses tellement différentes que
vous êtes... Exactement. Direction.
il peut remonter le courant au lieu de descendre.
Ça peut être un saumon, ça peut être un poète, ça peut être un bateau, savez-vous, d'incroyable Floride, etc.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Instant, un extrait par le compositeur Carole Beffa du morceau Bateau ivre. On reconnaît d'ailleurs Vous étiez guidé par les haleurs, insoucieux de tous les équipages. Comment ça s'est passé pour vous, les victoires de la musique? Vous aviez déjà obtenu il y a quelques années une victoire. C'était inattendu. Lorsqu'on avait préparé cette émission, vous me disiez ils ne m'ont pas contacté, ouais, on ne sait pas, rien ne va se passer. C'était une surprise.
Oui, j'avais quelques signaux, mais ils étaient contradictoires, donc je ne savais pas du tout quoi en penser.
Il y avait des signaux faibles, comme on dit aujourd'hui.
Voilà, des signaux faibles, des lueurs, pas vraiment des signaux. Comment ça se passe? Vous êtes dans ce cas-là dans une position un peu délicate parce que vous passez la première partie de la soirée à ne pas savoir si vous allez être sollicité ou pas. Vous ne préparez pas vraiment de discours.
Mais un peu
vous
quand
arrivez,
même.
Vous avez un trac dingue, donc vous dites pas ce que vous voulez dire. Enfin bon, voilà. Mais je pense que c'était une belle soirée par ailleurs. Et c'est très bien que puisse exister sur des chaînes de service public au moins une fois dans l'année un peu de promotion de musique classique et de leurs artistes. Ouais.
Quels sont les modèles économiques du compositeur que vous êtes, sans rentrer dans les détails chiffrés, mais comment on vit quand on est Carole Beffa?
Ouais, très bonne question, parce que c'est quelque chose je pense qui est un peu mystérieux pour beaucoup d'auditeurs. Le modèle économique, d'abord, il y a une grande différence entre un compositeur de musique contemporaine et un compositeur de variété ou de pop. C'est que, en règle générale, à partir d'une certaine notoriété, nous sommes payés pour la musique que nous écrivons. Pas simplement en termes de droits d'auteur, vous avez des commandes à distinguer avec une subtile distinction sémantique des demandes. Lorsqu'on vous avait une commande en mode uniforme, en l'occurrence le bateau Yves, c'était une commande non pas de Radio France comme j'ai pu en avoir récemment, mais de Musique dans la Liberté dans le cadre du Grand Prix Lycéen des compositeurs.
Benoît Duterte,
voilà, exactement. Donc,
producteur à France Musique le samedi matin à 11h.
Tout à fait. Étonnez-moi Benoît.
Étonnez-moi Benoît, c'est Benoît.
Qu'est-ce qui se passe? Ben dans ce cas, vous êtes sûr d'avoir un montant garanti, même si l'œuvre est un bide total, même s'il n'a absolument aucun succès.
Il y a des critères qu'on vous demande ou c'est très très libre finalement?
Alors, en règle générale, on va dire les contraintes de la commande, elles sont très limitées. C'est-à-dire que vous avez une durée approximative de l'œuvre, vous avez une formation. Tout ça, c'est lié au fait que ça va être joué pour une circonstance donnée. En l'occurrence, je savais que c'était l'Orchestre National de France, que ça allait être pour un concert qui avait lieu en mars dernier. Je connaissais le reste du programme. Donc, vous avez ce genre de contraintes, mais j'aurais pu écrire quelque chose de sinistre, comme quelque chose d'extrêmement guilleret. Enfin, normalement, vous n'avez pas de contraintes en la matière.
Passe des fois des commandes pour, je sais pas, un mariage
tout
ou
à fait.
Un enterrement.
Là,
il y a un peu des contraintes.
Exactement.
Quand même.
Un très bon ami pour faire plaisir à sa belle, à sa future, à l'occasion de son mariage, m'a commandé une œuvre donc qui portait son nom à elle. J'imagine que si j'avais fait entendre quelque chose de particulièrement sinistre, il aurait trouvé ça un peu curieux. Réciproquement, je ne sais pas si on me commande un De Profundis ou un Requiem, mais puis que j'écris une musique parfaitement légère et guillerette, il va y avoir un petit problème. Mais sinon, normalement, sauf quand un texte vous est imposé, et là c'est peut-être évidemment une contrainte assez forte, normalement l'esprit de l'œuvre, entre guillemets, eh bien, c'est vous qui choisissez.
Sur les modèles économiques du compositeur, à part les commandes, quels sont les autres éléments, rapidement?
Alors, évidemment, des droits d'auteur, ils sont, je pense, en moyenne, assez limité par rapport à la pop ou à la variété, même si là encore vous avez un modèle économique où c'est un peu le winner takes all.
Si vous êtes Bernstein avec...
Exactement, si vous êtes Bernstein avec West Side Story, qui est une œuvre qui est jouée de façon quasiment continue depuis qu'elle a
sa
été
création,
créée.
Ouais.
C'est pas la même chose que si vous êtes un compositeur qui écrit, qui de temps en temps. Voilà,
on fait des concerts aussi, bien sûr.
Alors, vous avez des concerts avec des droits d'auteur, ce qu'on appelle les. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que je suis par ailleurs pianiste et improvisateur, donc je peux avoir un cachet comme pianiste, mais ça n'est pas le cas de tous les compositeurs, oui. Loin de là. Il y a en plus des questions qui se posent, qui sont un peu particulières quand vous êtes improvisateur. Normalement, vous avez des droits d'interprète et des droits de compositeur. L'improvisation est et vous mettant en jeu à la fois comme pianiste, si vous êtes pianiste, et comme créateur dans l'instant. Vous pouvez avoir, mais il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose de très négligeable, les royautés, en bon français, les royalties qui sont liées à la vente par votre éditeur si vous éditez des partitions, ou à la location des partitions lorsque vous écrivez pour une formation qui va au-delà de 6 ou 7 musiciens, typiquement en l'occurrence avec les formations de Radio France, si c'est l'Orchestre National de France ou le Philharmonique de Radio France, eh bien votre éditeur loue à l'orchestre et vous touchez une petite part de cette location.
Donc partitions tout ça... qui sont de plus en plus souvent désormais sur des tablettes, autre
exactement.
Sujet lié
alors,
au numérique.
Qui sont très souvent aussi, comme on peut trouver aujourd'hui gratuitement ailleurs, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour les éditeurs et pour ces questions de rémunération dont vous parlez.
Mais est-ce que ça veut dire quand même que la plupart des compositeurs, dans leur grande majorité, ne vivent pas de leur activité de compositeur et très largement de leur activité de professeur, de musicien,
exactement.
Etc.
Il y avait une enquête de la SACEM en 2000 sur les compositeurs donc de musique contemporaine, si tant est qu'on puisse de façon assez nette les distinguer des autres, eh bien, elle montrait que, je crois, seulement 15 compositeurs sur les un peu plus de 1000 qui avaient eu une œuvre créée dans les 12 derniers mois, seulement 15 pouvaient ne vivre que de leur musique. Les autres, effectivement, enseignaient, étaient interprètes. Mais vous aviez aussi, je connaissais un compositeur qui était bagagiste, un autre qui était manutentionnaire, donc tout est possible.
Comment est-ce qu'on écoute de la musique classique aujourd'hui, Zoé Sfès? C'est ce que vous avez tenté de comprendre en interrogeant trois personnes autour de...
Alors figurez-vous, j'en ai interviewé beaucoup plus que
beaucoup
ça, mais,
plus, mais on
ces
en a
trois
gardé
personnes-là
trois.
Étaient quand même assez emblématiques de, disons vraiment de la grande diversité et des problématiques qui sont à l'œuvre dans la musique en général et dans la question de son écoute, mais évidemment dans celle de la musique classique. Donc je suis allée devant l'Opéra Garnier hier, où se jouait Onéguine, avec une très belle musique russe, en partant du principe que les gens qui allaient y aller avaient un lien, si ténu fut-il, avec la musique classique. Première personne que j'ai rencontrée, elle s'appelle Catherine, elle est originaire de la région toulousaine, elle a une soixantaine d'années, et je lui demande...
Elle est très bien.
Si elle aime ou pas la musique classique, vous allez voir pourquoi vous allez particulièrement l'aimer, Marc Vancher.
J'écoute de la musique classique, je vis toute seule, et c'est pour moi une musique qui remplit l'espace et qui permet d'être juste dans le moment. Voilà, donc je l'écoute en voiture quand je pars travailler, mais je l'écoute aussi beaucoup chez moi.
Comment est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que c'est la radio? Est-ce que c'est les disques? Est-ce que c'est par votre ordinateur?
Alors, en voiture, c'est France Musique. Et ensuite, à la maison, ce sont des disques, oui. Je ne suis pas 10 heures, tout ça, je ne connais pas. Enfin, je ne suis pas branchée. J'ai 60 ans, hein, donc voilà.
Est-ce que vous passez par Internet parfois pour voir des choses, notamment maintenant qu'il y a des concerts qui proposent beaucoup de captations, et là, il y a Radio France qui va lancer une offre, la plus grande salle de concert du monde. Est-ce que vous étiez au courant de ces initiatives-là? Est-ce que ça peut vous intéresser?
Non, j'étais absolument pas au courant, mais par contre, ça peut être très intéressant, en effet. Parce que moi, je vis en province. Toulouse est une... Il y a quand même pas mal de choses qui se passent au Capitole. Mais bon, c'est à 150 km de chez moi, donc le soir... je travaille. Donc c'est vrai que quand on est un peu comme ça, dans des coins un peu reculés, c'est une belle façon en tout cas de participer à ce qui se passe ailleurs.
Est-ce que vous faites des choses sur votre ordinateur? Est-ce que ça vous paraît très naturel finalement d'aller regarder ces choses-là sur ce support-là?
Oui, je regarde des ballets déjà, mais des opéras, je n'en regarde jamais, non.
Et pourquoi?
Parce que je n'y avais pas pensé, tout simplement. Je pensais tout simplement que ça n'existait pas.
Alors Catherine, qui, à l'image de beaucoup de gens de sa génération, avait quand même un rapport assez fort avec le numérique, à la fois sur son téléphone et sur son ordinateur, mais qui ne l'utilisait pas du tout, ce genre de support, pour avoir un lien avec la musique, et qui n'est pas très au courant des offres qui existent.
Une réaction, Marc Vancher?
Oui, d'abord, je vais
la
sur la bouche, cette dame. Ouais, elle est formidable, elle écoute France Musique. Non, mais elle représente évidemment les usagers d'aujourd'hui. Alors, qu'elle ne soit pas au courant de tout, c'est peut-être de notre faute aussi, hein, sur le faire savoir, qui sait. Mais ça, on y remédiera assez vite. Non, ce que l'on voit, en tout cas, c'est que c'est n'est pas le moindre des paradoxes quand on a créé, nous, la plateforme en mettant les concerts filmés, désormais sur francemusique.fr, c'est que l'usage de la musique se fait par la première entrée, la barre Google, qui, si c'est pas la barre Google, c'est la barre YouTube. Bon, c'est par l'image.
Et YouTube appartenant à Google, c'est un peu la même barre.
Donc, la chose qui nous paraissait importante, c'est qu'on s'adapte aux usages et qu'on se dise que cette musique-là, si on doit la rencontrer par l'image, il faut que nous aussi, on mette de l'image sur un site de radio. Après, ce qui devient beaucoup plus complexe, c'est qu'on sait très bien que l'image, elle est vue 30 ou 40 secondes, pas plus. Et les playlists YouTube ne sont évidemment pas regardées, ou très peu. Ce qui est regardé en image, ce sera de l'archive forte, ce sera ce qui rassemblera à une sorte de piratage. C'est pour ça aussi que nous, on veut se réapproprier nos archives pour qu'elles soient mieux éditées qu'elles ne le sont, mal foutues, pour le dire comme ça, sur YouTube. Mais voilà, l'usage de l'image, évidemment, est aujourd'hui crucial si on veut pérenniser, faire accéder et pérenniser nous, notre activité à nous, à France Musique, et pérenniser aussi un usage plus fort, parce qu'en plus on renseignera mieux, nous on va éditer, on va, si quand même la personne veut savoir ce qu'elle écoute, ce qu'elle veut savoir, elle va tout avoir chez nous.
Carole Beffin.
Oui, cette dame parle de l'opéra en disant qu'elle n'avait jamais eu l'idée de regarder des opéras sur son ordinateur. Alors, il y a évidemment la possibilité d'en regarder sur YouTube avec des qualités qui sont très variables, malheureusement très variables. Mais vous avez le principe de l'opéra pour tous. Mmh. 2008, Gaumont et Pathé proposent une expérience assez singulière qui est de voir un opéra en direct du Met, le Metropolitan Opéra de New York,
UGC
dans un
aussi,
réseau exactement de salles et UGC. Et d'autres ont suivi le phénomène. Ils présentent plusieurs chefs-d'œuvre du répertoire lyrique dans leur salle de cinéma, ce qui est d'ailleurs, si je ne m'abuse du point de vue économique, cher Frédéric Martel, une façon de contourner, enfin d'aller, malgré la loi de Baumol, qui fait que jusqu'à présent, vous étiez un peu contraint quand vous aviez affaire à du spectacle vivant, à des coûts.
Monter les prix alors
exactement.
Que voilà, et là, coût de production qui monte et prix des tickets qui plafonnent parce qu'on peut quand même pas les monter à l'infini.
Ici, donc, comme vous avez une diffusion.
Le dilemme du spectacle vivant, comme le disait Baumol justement et Bowen dans leur rapport célèbre des années 50.
Voilà, depuis 1965, on est un peu contraint par ça. Et avec là, l'idée, c'est que potentiellement, vous avez un nombre d'auditeurs qui est infini, puisque si vous retransmis dans d'excellentes conditions dans des salles de cinéma avec un très bon niveau sonore ces opéras, vous allez peut-être réussir à faire en sorte que d'autres s'intéressent davantage à l'opéra et à faire venir plus de personnes à la musique classique.
Voilà, alors après Catherine, 60 ans, donc, qui on l'a dit quand même, écoute essentiellement encore sur le disque, elle fait partie de cette génération-là, j'ai rencontré un jeune couple de la vingtaine qui était là pour la première fois. On avait offert ce ticket pour leur anniversaire, parce qu'il faut faire ça une fois dans sa vie. Donc, des gens qui avaient été à l'opéra quand ils étaient petits, grâce à l'école. Donc, des gens qui, un jeune couple qui a quand même eu accès à la musique classique, mais qui, le confesse, n'en écoute pas beaucoup. En quoi leur mode de consommation de la musique joue là-dessus ou pas? Je leur ai posé la question.
Personnellement, j'en écoute pas chez moi, mais après, quel type de musique j'écoute, vraiment, c'est très varié. Ça peut être de tout. Plutôt du côté électro, de la pop, du rock. Voilà.
Et pareil, j'écoute très rarement de la musique classique, sauf quand j'en entends dans un générique de série qui me plaît ou dans une émission qui m'a plu. Et au final, je vais la réécouter un petit peu, mais c'est très rare.
Quand vous identifiez comme ça un air, où est-ce que vous le réécoutez? Est-ce que c'est fréquent pour vous d'aller, par exemple, chercher sur YouTube tout simplement un titre de musique?
Ouais, c'est Spotify ou YouTube en général. Quand j'ai la chance de me souvenir, enfin de savoir le nom de la musique, sinon, je sais pas.
C'est la même chose. Quand j'arrive à avoir un nom, mais c'est rare. C'est plutôt sur YouTube, oui.
On sait que Spotify vous propose beaucoup de choses à partir de ce que vous écoutez déjà. Il y a des algorithmes, il y a ce qu'on appelle les daily mix. Du coup, je pose la question, même si je crois que je connais la réponse. Vu ce que vous écoutez, Spotify vous propose jamais d'écouter des musiques classiques.
Non, très rarement. Mais on peut retrouver de la musique classique dans certaines des musiques qu'on écoute, par contre. Mais c'est vrai que globalement, dans les propositions qui nous sont faites, non, il n'y en a pas.
Et non, si, peut-être dans les artistes suggérés, vu qu'une fois on a écouté un Max Richter qui reprenait Vivaldi ou je sais pas quoi, potentiellement il va nous faire d'autres compos de Max Richter, et du coup, mais je clique pas parce que je connais pas.
L'opéra a lancé un site qui s'appelle 3ème chaîne, Radio France va lancer un site où ils vont filmer absolument tout ce qu'il y aura à la maison de la radio. Est-ce que ça c'est des choses que vous pratiquez? Est-ce que ça vous intéresse dans l'absolu comme offre?
Enfin, je sais que j'ai déjà regardé des concerts en live sur Arte quand c'était un groupe que je connaissais bien, mais naturellement, je ne sais pas si j'irais taper de moi-même live Garnier, mais pourquoi pas, si je tombe dessus, pourquoi pas.
Ouais, le souci, c'est que je trouve ça très très long, ça met beaucoup de temps pour rentrer dedans, etc. Et l'action, en plus de le regarder, je trouve ça un peu beaucoup en fait. Donc juste l'écouter peut-être, mais aller jusqu'à le regarder, toute la retranscription, etc., c'est un peu trop, je trouve.
Alors ce jeune couple, où c'est un peu la génération de « si je tombe dessus », c'est-à-dire que toutes les réponses, on sent qu'ils peuvent être intéressés, ils peuvent être attirés, mais ils n'iront pas d'eux-mêmes et il faut que ça leur tombe sous la main.
Eh bien, nous faisons tout pour ça. C'est pas compliqué. On passe une journée à ça. Non, mais oui, d'une certaine manière, d'abord, c'est notre métier de gens de médias, de gens de radio, c'est de transmettre, hein, c'est de prendre la main de quelqu'un. C'est que je prends la main de Carole Beffay, puis j'essaie de prendre la main d'un auditeur, de deux, de trois, de quatre, et de faire passer, hein, comme on dit. Le faire passer, après, il y a des trucs, il y a quand même des petites techniques qu'il faut savoir, et en connaissant notamment, justement, bien les usages. Et on en revient à la question qu'on abordait tout à l'heure, c'est à la question, la fameuse question de l'indexation et du référencement, qu'il faut être le plus large, le plus précis, mais aussi le plus large possible, le plus précis, notamment par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut, on sait très bien que, par exemple, les choses s'échangeront par Facebook, ou par Twitter un peu, mais surtout par Facebook, quoi, par exemple. Donc là, il faut que nos formats, hein, aussi. C'est pour ça que, par exemple, le travail qu'on fait, nous, c'est qu'on découpe nos œuvres par mouvement. Parce qu'on sait très bien que personne, si quelqu'un met l'empereur Beethoven, il va tomber forcément maintenant sur une version qu'on a, nous, sur lefrancemusique.fr, de donner ici. Bon. Mais il faut qu'il puisse se dire qu'il va pas l'avoir, qu'il peut n'en écouter qu'un bout. Donc on découpera les mouvements. Alors on va pas altérer la scientificité, on va dire, du renseignement, mais on va essayer, avec les usages aujourd'hui, de le faire correspondre à ce qui sera, à ce qui apparaîtra pour l'usager comme un extrait, quelque chose de plutôt facile à voir.
Carole Beffard.
Oui, deux exemples. Il y a effectivement des artistes qui ont bien compris la chose. Si vous prenez le cas de la pianiste ukrainienne Valentina Lisitsa,
absolument.
Elle a été lancée par YouTube d'une certaine absolument. Façon, 85 millions de reprises. C'est pour ça qu'on l'a appelée la pianiste 2.0 dans les médias. Et maintenant, depuis 2012, sa carrière n'est plus seulement une carrière, on va dire, virtuelle numérique, c'est une vraie carrière, mais elle a été lancée comme ça. Si vous prenez une des stars de la voix, Joyce DiNato, elle a produit... elle a proposé à ses fans de coproduire en fait son best-of, puisque le titre a été comme ça retenu sur 750 propositions, c'était Rejoice, ça tombait bien. Sur les 250 morceaux qui ont été proposés aussi à ses auditeurs, ils en ont choisi 31. Ils ont même été consultés sur la photographie de l'album et tout ça. Mmh. Évidemment, tous les dispositifs qui permettent le dialogue ont été mobilisés, blog, plateforme Twitter, Facebook, chaîne YouTube, tout ça.
Ce qu'il faut quand même rappeler, effectivement, que là, on parle du rapport des gens avec la musique classique, mais il y a toute une foule de gens. Il y a ceux qui, comme on l'a entendu, ne sont pas nécessairement des convaincus. Il y a ceux qui ont un vrai rapport, mais qui ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un tiers, c'est des chiffres très flous, mais il y a des gens très, très engagés sur les réseaux. Des grands, grands aficionados, notamment, évidemment, qui sont présents sur YouTube, qui débattent et qui sont là en force, notamment, et on le voit de plus en plus en Asie, dans des pays où c'est une musique qui touche énormément les jeunes, avec des débats, avec des jeunes stars. Vous avez été, vous, à France Musique, Marc, les artisans de l'énorme succès d'un jeune contre-ténor,
Jakub Orlinski, incroyable, mais
qui a chanté en tongue dans le carrefour de l'Odéon et qui a été vu des millions de fois.
Exactement, et ça vous pose des questions aussi sur la représentation qu'on a de la musique classique et de comment aussi, aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir, se remettre en question, aller devant notre porte pour savoir aussi quels sont, enfin comment on la montre, hein, après tout. Est-ce qu'il faut que éternellement les orchestres restent en noir, en queue de pie, en smoking et de papillon, c'est pas dit. Effectivement qu'il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire avec ce gars. Il bondit sur une scène d'été avec un grand arbre au-dessus de lui.
Il est très beau, il est en short.
Il est en short, on y a Brad Pitt, et puis tout d'un coup il se met à chanter avec une voix avec de contre-ténor. Il y a une grâce absolue qui a touché, mais là on voit très bien que c'est pas la peine d'y connaître grand chose, c'est juste la grâce. Voilà. Mais c'est pas la salle de concert en bois verni et avec quelqu'un en smoking. C'est un jeune homme qui chante. Voilà.
Troisième cas de figure, et c'est le dernier que j'ai rencontré, un jeune garçon qui s'appelle Thibaut, qui a la trentaine, et qui lui écoutait de la musique sur ses écouteurs quand je l'ai interrompu pour l'interviewer. Lui se dit assez séduit par la musique classique et a l'impression que le numérique a renforcé chez lui cette passion.
Alors la fréquence, elle est quotidienne. Après, au niveau des goûts, c'est très très variable. Ça peut être du baroque, des choses plus contemporaines. Ça peut aller de Purcell à des choses beaucoup plus récentes, du Philip Glass, des minimalistes, des choses comme ça.
Et alors, question cruciale, comment ou sur quoi vous écoutez de la musique? Je vois que vous aviez des écouteurs sur vous. Comment est-ce que vous écoutez de la musique classique et par quel biais?
Alors j'écoute parfois de la musique classique sur platine vinyle, mais c'est relativement rare. Et très majoritairement par le biais de mon téléphone et avec des écouteurs et par le biais d'une plateforme de téléchargement avec un abonnement.
Une plateforme de téléchargement ou de streaming?
C'est Spotify.
Alors, question fatidique, à quel moment vous êtes passé, parce que vous avez dû, comme tout le monde, vivre ce moment où vous aviez des CD chez vous, est-ce que vous avez toujours vos CD de musique classique chez vous?
J'ai encore quelques CD que je garde un peu par souvenir, par fétichisme, mais je les écoute pas énormément. Et j'ai vraiment commencé à m'abonner à des plateformes de streaming, téléchargement, il y a à peu près 5 ans.
Et est-ce que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin?
Majoritairement oui, ça peut arriver exceptionnellement pour des compositeurs très contemporains que je découvre dans des ballets par exemple, que je ne réussisse pas à les trouver après sur plateforme. Ouais.
Est-ce que vous regardez, vous, des choses du classique sur Internet? Salle virtuelle ou même vidéo sur YouTube?
Sur Arte, oui, ça m'arrive de regarder des captations. Ça m'arrive aussi assez souvent de regarder Troisième Scène, puisque je reçois les newsletters de l'Opéra, donc je suis informé des nouveaux films. Il y en a un qui a été mis en ligne hier, aujourd'hui, je crois. Je trouve ça assez sympa.
Dernière question, est-ce que vous trouvez que finalement, ce tournant du numérique, il aide plutôt la musique classique, ou est-ce que, comme certains le disent, il l'appauvrit? Il y a eu des plateformes de streaming, une française qui s'appelait Cobuzz, qui a essayé de lancer une offre spéciale jazz et musique classique. Vous en aviez entendu parler. Est-ce que vous seriez, vous, susceptible d'être intéressé par ce type d'offre?
Alors, moi, je pense que je n'ai pas assez de vision globale sur le monde de la musique classique pour savoir si ça l'appauvrit ou pas. Moi, en tout cas, c'est un accès qui est très plaisant, très facile, et j'en écoute beaucoup plus qu'avant, qu'à l'époque du CD. Parce que c'est plus facile, parce que je peux chercher plus facilement, parce que j'ai un accès très très large et je peux découvrir des choses par des systèmes de renvoi. Quand on va sur un compositeur ou un disque qu'on aime bien, il y a des disques liés, ça c'est assez plaisant. Concernant les plateformes qui fournissent des offres à de plus grande qualité, j'en ai entendu parler, j'ai des amis qui l'ont, mais encore une fois, moi je ne suis pas un pur mélomane, je n'ai pas une oreille très développée, donc pour l'instant ça ne m'est pas vraiment destiné, mais pourquoi pas.
Voilà ce que le numérique fait à la musique classique. C'est le sujet de Soft Power ce soir. On est presque au terme de cette émission. Je voudrais peut-être terminer juste avec une question sur la qualité. Marc Voinchet, vous êtes directeur de France Musique. Carole Beffa, vous êtes compositeur et d'ailleurs lauréat d'une victoire de la musique ce vendredi soir. Josquin Farge, fondateur de Sounds Good, est avec nous également. Comment est-ce qu'on écoute cette qualité? Et peut-être je m'adresse à Carole Beffa pour commencer. Spotify diffuse en gros à 320 kilobytes par seconde, comme on dit, kbps, sauf si on est en gratuit, où à ce moment-là on est à 96, donc de bien moins bonne qualité. Deezer à peu près pareil, Cobuzz, on monte à entre 700 et 1000 kilobits par seconde. Ça fait une différence, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça?
Oui, enfin, Cobuzz, ça fait une différence. Pour le reste, je dois dire que j'y suis, quant à moi, mais c'est vraiment très particulier, assez peu sensible, voilà.
C'est-à-dire que, évidemment, à 96, on entend, YouTube est diffusé à 592, donc c'est très inférieur. Mais au-delà, c'est-à-dire à 320, ce qui est le cas pour Spotify en payant ou en Deezer en payant, c'est suffisant, selon vous?
Oui, j'aurais tendance à considérer que oui. En fait,
tout dépend évidemment après des enceintes qu'on a, de l'ampli, si on lit à l'ordinateur.
Sur Bluetooth ou pas? Parce que vous pouvez avoir très bon Cobuzz, et là vous vous branchez à vos enceintes en Bluetooth, et là c'est comme si vous écoutiez sur YouTube.
Marc Voinchet, sur cette question.
Oui, c'est Alex Ross qui aussi parle de ça, quand même, qui dit que malgré tout, on s'est habitué avec le CD à ne plus bien entendre la musique, et qu'aujourd'hui on est de plus en plus tolérant avec une mauvaise qualité. Ne le prenez pas mal, Carole Beffa.
Donc vous voulez dire que le micro-sillon c'était bien, le CD c'était déjà moins bien, et après...
Regardez la vogue du vinyle, pour le faire vite, qui est une voix qu'il ne faut pas surestimer non plus, hein, parce que c'est un effet de mode, et bon, enfin, le vinyle, il y a un marché du vinyle, parce qu'il y a qui est plus pour la pochette que pour écouter. Mais certains qui font l'expérience sur le jazz, par exemple, le jazz en vinyle aujourd'hui a des dynamiques plus fortes et une qualité musicale de restitution meilleure que le CD qui écrète un peu tout. Voilà. Et sinon, après, il y a évidemment le son Radio France qui est excellent, celui de France Musique, entre autres, et en particulier.
C'est un peu le même qu'on diffuse avec France Culture.
Non, mais
la même qualité, on a.
Cela dit, je pense qu'il y a quelque chose sur laquelle il ne faut pas que nous lâchions, c'est sur cette qualité-là. Parce qu'après tout, ce sont nos références. c'est notre référence et notre différence, comme disait le slogan pour Radio France. C'est que, voilà, on a une qualité éditoriale et on ne doit jamais faiblir sur la qualité du son parce qu'elle nous est toujours reconnue et on nous remercie pour ça. Et donc, il faut garder ce cap-là.
Merci infiniment, Marc Vincher, d'avoir été notre invité. Ce soir, il y avait un petit jeu, lequel elle dirait le plus souvent France Musique ou France Culture. Eh bien, Marc Vincher a gagné ce soir.
Pour une fois.
Merci infiniment à tous les trois, enfin Carole Beffa, compositeur, Marc Vincher, directeur de France Musique. Pour aller plus loin sur le numérique et la musique classique, notamment la question des salles de concert virtuelles et comparaison avec les salles américaines de Michael Stilson Thomas au San Francisco Symphony par exemple, sur la question des vidéos, sur la question des droits, ou pour les références des livres de Carole Beffa, Par volonté et par hasard, ou auparavant Diabolus in opera, et aussi les articles d'Alex Ross qu'on a cités ce soir, tout ça sur les réseaux sociaux. On vous poste les titres, les ouvrages, les références, les articles au mot-clé Soft Power sur notre page sur le site de France Culture et sur Twitter. Dans un instant, Soft Power, la seconde partie, ça continue. 20h10, le débat, le numérique et politique. On parle de patriotisme économique ce soir. Et dans un instant, à 20h, Zoé Sfez, vous nous parlez de Sounds Good.
Bah oui, avec Josquin Farge qui reste avec nous et qu'on retrouve dans une minute à peine.
Tout cela à suivre après Black Panther Once Again.
Bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I bought an 87 for the weekend. This ain't what you want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want.
And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch, need two life jackets, little bitch. I ain't gon' hold ya, I ain't gon' pressure, never control ya. I ain't gon' front ya, keep it 100, I don't know ya. Boss like top dog, boss my life up, crossing over. Stutter steppin', got a hall of fame and all my poster. I been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on full, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twines, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it.
Miss me with that bullshit.
You're not a gang member, you're a tourist. I be blacking out, I be blacking out. Bought a 83 Cutlass for the weekend. I got 100,000 and I freaked it. I made 500,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, oh yeah. Fuck his baby mama trying to sneak this. I took her to my penthouse and I freaked it.
I
haven't made my mind up, should I keep it?
Should I keep it?
I got big dog status, it ain't no secret. Lady daddy die, slime on me now. Pass me some syrup for me and the.
On en parlait déjà la semaine dernière, le film Black Panther, l'événement cinéma américain du moment qui pulvérise après une semaine d'exploitation bien des records au box-office. Le dernier Marvel avait commencé timidement en France le 14 février pour sa sortie, mais il est déjà l'un des plus grands succès de l'histoire après son premier week-end aux États-Unis avec un casting presque exclusivement noir qui fait couler beaucoup d'encre. Ce blockbuster est un succès, le meilleur démarrage pour Marvel avec 292 millions de dollars engrangés lors de la première semaine. Si on aime les blockbusters, eh bien ce blockbuster noir est épatant, mélange étonnant d'ultra-modernité et de rites africains, recette qui avait déjà fait le succès à Broadway du Roi Lion, sans oublier la créativité, l'innovation et disons-le un certain professionnalisme pour ce film. Et si vous regardez la fin, le générique, on est frappé par le nombre d'artistes incroyables et le nombre de studios et de sous-studios indépendants qui ont été associés à ce succès. La bande originale a été confiée à Kendrick Lamar, que nous écoutions, qui a rassemblé nombreux artistes autour de lui et qui est d'ailleurs Kendrick Lamar en concert ce soir et demain à Paris, de concert sold out.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Rebonsoir Josquin Farge.
Bonsoir Zoé.
Alors, on l'a dit, on l'a redit, on vous a gardé parce que vous êtes le fondateur d'une start-up baptisée Sounds Good. En gros, ça sonne bien.
C'est ça.
Qui a fait vraiment son trou dans cet univers du streaming dont on a beaucoup parlé et qui est en pleine mutation. Le cœur de votre activité, on l'a dit, c'est ce qu'on appelle la curation. Le curator à l'anglaise, c'est dans un musée, dans la version anglo-saxonne, celui qui choisit, qui compose une exposition.
C'est sélectionner les œuvres autour d'une thématique.
Voilà. Pourquoi d'ailleurs plus ce terme que le terme de programmateur, qui correspond d'ailleurs peut-être plus pendant longtemps le programmateur de radio, le programmateur d'une salle de concert. C'est aussi une certaine idée de quelqu'un qui choisit.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a 4 ans quand on a commencé et qu'on a trouvé ce terme de curator, c'est une très bonne amie à moi, Marie, qui est curator à San Francisco, mais dans le marché de l'art. Et j'aimais beaucoup ce concept qu'on connaissait pas si bien que ça en France. Quand on est arrivé, quand on a commencé à monter la boîte, beaucoup de gens nous disaient qu'on n'avait pas le bon terme parce que c'était pas compréhensible. Et malheureusement, on a dû évoluer pour le terme d'influenceur. Aujourd'hui, on décrit SoundsGood comme la plateforme qui permet aux influenceurs de créer et partager leur sélection musicale. Donc un influenceur a ce côté peut-être un peu plus business que le curator ou le programmateur.
Alors justement, on va parler du concept de cette émission, de cette start-up, je m'embrouille les pinceaux, mais de cette start-up qui a un peu changé entre le début et ce qu'elle est aujourd'hui. Donc elle a été créée, vous m'avez dit, fin 2014, donc elle a un peu plus de 4 ans. Qu'est-ce qui a évolué? En fait, c'était quoi le constat de base, avec cette, comme on l'a dit, cette énorme montée en puissance du streaming? Qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'est-ce que finalement vous faites? Comment est-ce que vous êtes adapté?
Alors l'ADN de SoundsGood n'a jamais évolué. L'ADN, c'était vraiment de comprendre que quand on commence en 2014, le streaming est vraiment devenu le mode de consommation numéro un de la musique, en tout cas pour notre catégorie d'âge. Et les gens autour de nous se sentaient un peu... Il y a cette grande liberté d'avoir accédé à 30, 40 millions de titres, mais il y a cette frustration aussi de ne pas vraiment savoir quoi écouter, et ce qu'on appelle donc la tyrannie du choix. Et le grand challenge du streaming, c'est la recommandation, la curation. Et là où, peut-être par aussi souci de facilité, les plateformes s'orientaient beaucoup vers la curation algorithmique, on a eu envie de prendre ce parti, de dire que nous, on allait défendre la curation humaine. Donc notre ADN, c'est ça, c'est de donner les meilleurs outils aux humains, aux influenceurs humains, pour créer et partager leurs sélections qui vont après ensuite diffuser à leurs auditeurs. Donc on a commencé d'abord en créant un média où notre but c'était de ramener un maximum d'auditeurs sur cette page soundsgood.co et qu'ils puissent accéder à des
playlists, catalogues de playlists. Voilà. Soit de leur animateur préféré, soit d'une de leurs stars préférées, soit d'une marque qu'ils aiment bien.
Le pitch c'était plonger dans l'univers d'un chef d'orchestre, plonger dans l'univers d'un coach sportif si vous voulez des playlists pour faire du sport, etc. Mais plonger dans l'univers de quelqu'un.
Et ça a bougé parce que nécessairement, en réalité, les géants du streaming dont on parlait tout à l'heure, ils sont déjà là.
Ils sont déjà là, que les maisons de disques n'attendaient pas non plus un nouvel acteur sur ce positionnement. En tout cas, il y avait la vision, l'ADN était là, mais le modèle économique n'était pas là. Et du coup, assez rapidement, ça s'est fait au MIDEM, donc le salon du marché de la musique à Cannes tous les ans. On a rencontré les professionnels des maisons de disques, donc les majors, Sony, Warner, Universal, et les plateformes de streaming. Et on a rapidement compris qu'on était dans le vrai, sur la partie justement vision ADN, mais qu'économiquement, il fallait plutôt s'orienter vers le marché B2B, c'est-à-dire
business to business, donc voilà, d'entreprise à entreprise.
C'est ça. Ne plus chercher à amener des auditeurs vers notre page, mais au contraire, être le service, donc continuer d'utiliser notre technologie pour aller chercher tous les influenceurs et leur permettre de créer leur sélection et après de les pousser sur les plateformes de streaming qui, elles, sont en contact avec l'auditeur.
Et de les faire exister aussi hors plateforme, parce qu'en fait, si on veut essayer d'être concret pour nos auditeurs, je suis une animatrice de radio très célèbre, ZOSS, ouais, même si c'est absolument pas le cas, j'ai envie de faire des recommandations de musique. Et vous proposez un espèce de lecteur universel, c'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment est-ce que ça marche?
Alors concrètement, le groupe Radio France utilise beaucoup notre service, donc quelqu'un comme Rebecca Manzoni, qui fait sa chronique tous les matins sur France Inter, va créer sa playlist sur SoundsGood, et nous on va la dupliquer en son nom sur Deezer, Spotify, SoundCloud, YouTube, Qobuz, etc. Et donc elle est présente sur toutes ces plateformes, mais en réalité Rebecca, son audience elle l'a sur les médias du groupe Radio France, sur ses réseaux sociaux, etc. Et donc là on lui permet de partager un player unique qui va s'adapter à chaque auditeur. Si vous êtes abonné Spotify, vous allez l'écouter avec Spotify, la sauvegarder dans Spotify, idem avec Deezer, idem avec Qobuz, etc.
Donc moi je suis abonné au fil Twitter de Rebecca Manzoni, elle me partage une playlist, exactement. Je suis abonné à Spotify, je peux la lire directement.
Vous la lisez, vous vous abonnez, elle est mise à jour tout, alors je crois qu'elle le fait que toutes les semaines, mais elle la met à jour régulièrement et voilà.
Et du coup, comment est-ce que vous en vivez? Comment est-ce que vous monétisez votre modèle économique? Il marche comment? Parce qu'on a bien compris qu'il y a deux bouts, en fait.
Donc, C'est vrai qu'on a commencé d'abord par développer l'innovation, la technologie, la communauté, le produit. Et on a eu la chance d'être soutenu par des business angels issus de notre industrie de la musique et de l'entertainment qui nous ont aidés à financer ces développements. Et depuis la fin de l'année 2017, donc depuis maintenant 4 mois, on a commencé à monétiser notre entreprise SoundsGood. Donc on a une partie de nos revenus qui viennent directement des plateformes de streaming qui nous payent
Spotify, Deezer and Company,
Qobuz, etc., Napster, qui nous paye un abonnement pour pouvoir être intégré dans l'écosystème SoundsGood, et on leur pousse automatiquement toutes les playlists des influenceurs, et ils sont mis en avant à chaque fois qu'un influenceur partage une playlist. Donc ça, c'est une partie de nos revenus. Et une autre partie, c'est tous les services que nous demandent les influenceurs, qui sont des services un peu avancés par rapport à l'offre de base de SoundsGood, qu'on va appeler nous des features custom.
Justement, par exemple, quoi ?
Un influenceur qui veut un player customisé, donc personnalisé, un label qui va vouloir capter des datas sociales et de l'opt-in, grossir sa base pour d'abonner à sa newsletter
qui directement. Qui veut comprendre un petit peu qui ça touche,
voilà,
tout ça.
Collecter des datas via nos outils. Donc ça, c'est des features qu'ils nous demandent, qu'on fait pour eux, on facture. Et ensuite, à partir de juin 2018, on va mettre toutes ces features en commun et on va créer ce qu'on appelle, alors c'est le jargon, mais un compte premium. C'est-à-dire qu'un influenceur pourra avoir l'usage gratuit de SoundsGood pour faire sa curation, mais s'il veut ces features avancées, il payera un abonnement à SoundsGood.
Alors, évidemment, parmi les influenceurs, on trouve tout. Vous l'avez dit, il y a du Rebecca Monzoni, il y a parfois des artistes, il y a des chefs d'orchestre, il y a des coachs sportifs, puis il y a des marques aussi, c'est évidemment ça. Ça, c'est plus un problème aujourd'hui ?
Alors, tout le monde est une marque, parce que tout le monde a besoin de se démarquer, d'engager une audience, de lui pousser du contenu. Ce qui est très fort avec la playlist, c'est que vous partagez une playlist à une audience, si cette audience la capte, un auditeur va la sauvegarder et va la réécouter dans son quotidien. Donc, une marque, mais Radio France, enfin France Inter, France Culture sont des marques, a la possibilité de rentrer dans le quotidien des gens. Alors vous le faites déjà avec les ondes radio.
C'est un peu le cœur de notre métier, voilà. Par ailleurs.
Mais par exemple, un artiste Broken Back, qui nous soutient depuis le début de l'aventure SoundsGood, fait des albums, fait de la création, mais il fait aussi de la curation, il fait des playlists. Et ses abonnés vont écouter au quotidien la curation de Broken Back et s'imprégner de l'univers de marque de l'artiste.
Dernière question, et un petit peu avocat du diable, mais en fait, là, vous le dites, tous ces gens-là, ils partagent ces playlists avec ce lecteur universel sur leur compte Twitter, sur leur Facebook. De l'autre côté, sur Spotify, Deezer, etc., nous proposent déjà des playlists, mais qui sont, entre guillemets, curationnées par eux-mêmes, ou par leurs algorithmes.
Majoritairement, oui.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer à la fin que ce soit ça ? Que Spotify, au lieu de me proposer mon Daily Mix 1, mon Daily Mix 2, ma playlist 1, ma playlist 2, composée par un ordinateur à partir de ce que j'ai déjà écouté, pourrait pas proposer directement lui, en sachant que j'aime bien Rebecca Manzoni ou que j'aime bien tel artiste, lui-même proposer la curation ? Est-ce que ce n'est pas quand même à la fin, ultime, la fin des fins, ce qui risque d'arriver, ce qui devrait arriver ? Parce qu'on en a parlé, on l'a écouté d'ailleurs tout à l'heure quand on écoutait ces jeunes gens de micro-trottoir. Concrètement, aujourd'hui, il y a la tyrannie du choix. On ne sait pas quoi choisir, mais on est bien souvent, très vite, enfermé aussi dans ses propres choix.
Il y a deux effets. D'une part, le streaming se construit, donc les expériences vont évoluer. Et d'autre part, c'était aussi très important ces dernières années pour les plateformes de streaming de montrer qu'elles n'étaient pas juste des canaux de diffusion de musique et qu'elles étaient aussi un vrai levier marketing. Donc elles ont voulu imposer leurs playlists.
Et montrer qu'elles avaient du pouvoir.
Voilà, c'est ça. Et elles l'ont. Parce qu'aujourd'hui, c'est Spotify, c'est Deezer qui peuvent aujourd'hui développer un artiste.
Et c'est vos partenaires, mais c'est aussi un petit peu vos rivaux finalement. Même si c'est pas vos rivaux parce que vous n'êtes pas. Mais sur cette question de la curation, il y a quand même un enjeu et la bataille n'est pas gagnée.
Disons que nous, on donne vraiment des outils pour que les influenceurs puissent développer leur audience majoritairement sur leur réseau. Au sein de Spotify, au sein de Deezer, au sein de Qobuz, au sein de Napster, on est très content quand ils mettent en avant les playlists de ces influenceurs au sein de leur plateforme. Mais en aucun cas, on est rivaux. C'est-à-dire qu'on les aide, on leur fournit ce contenu. S'ils veulent l'utiliser, ils l'utilisent. Et s'ils veulent pas, ça viendra.
Ça viendra. Voilà. On suivra. SoundsGood, merci beaucoup. Je
merci beaucoup. Farge.
Merci d'avoir été avec nous ce soir tout au long de cette émission, Josquin Farge. Le temps de vous dire que demain, sur France Culture, dans les matins, Guillaume Hernet recevra Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France. Donc demain, dans les matins.
Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
Dans le débat, le numérique et politique, ce soir, nous débattons de la question du patriotisme économique appliqué aux start-up. Et nous sommes pour ce débat avec Séverin Naudet, ancien conseiller numérique à Matignon, aujourd'hui consultant en innovation et disruption au cabinet de conseil Tilder, et Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande, consultant numérique. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Frédéric. Merci Romain Péginel de rejoindre l'équipe des débatteurs de cette émission. Faut-il étendre le patriotisme économique aux start-up françaises ? C'est le sujet que nous allons dont nous allons débattre ce soir. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la semaine dernière sa volonté d'étendre le décret Montebourg, qui date de 2014. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce décret prévoit que dans certains secteurs, les investissements soient obligés d'obtenir une autorisation préalable de Bercy avant d'investir dans une entreprise française. En 2014, ce fut le cas avec le refus par le ministère, en l'occurrence le ministre Montebourg, de vendre Dailymotion à Yahoo. Alors, ce décret ciblait à l'époque les domaines de l'énergie, de la défense et des télécoms. Désormais, Édouard Philippe veut l'étendre à l'intelligence artificielle, au spatial, au stockage des données, aux semi-conducteurs, aux infrastructures financières, bref, aux entreprises du numérique. Alors, est-ce une bonne idée ou non du gouvernement ? Séverin Naudet, pour commencer sur cette question.
Ah ben là, je crois qu'on a touché le fond de l'absurde et du ridicule. Si une activité qui a de l'intelligence artificielle et des données est une activité, une entreprise devient une entreprise stratégique, alors le premier fabricant de brosses à dents connectées est un danger pour la sécurité nationale. Ou alors pourquoi pas demain les voitures connectées dont on peut prendre
mais
le contrôle à distance.
Est-ce que c'est sécurité nationale ou est-ce que c'est patriotisme économique ?
Non, mais là, d'abord, on n'en sait rien, parce que le gouvernement n'a donné aucun détail. Mais en tout cas, il est fait référence à des domaines qui sont des risques pour la sécurité nationale ou la défense nationale. Donc c'est tout simplement absurde.
Une première réaction, Romain Piginel ?
Déjà, essayer d'être un peu précis. Alors, le problème, c'est justement qu'il n'y a pas beaucoup de précision sur ce qui va être fait. Donc je pense qu'il faut attendre d'avoir un peu plus d'éléments sur quel va être l'étendue du décret, de quoi on va parler précisément. Mais si on regarde un peu l'existant, notamment le décret Montebourg, ce qui est important de noter, c'est que d'abord, c'était l'extension de réglementation qui avait été prise déjà 10 ans auparavant, je crois, à l'époque de Dominique de Villepin. Ça avait commencé dans le domaine des infrastructures liées à la défense, à la police, etc. Et ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que c'est pas une interdiction des investissements, mais c'est une interdiction des prises de contrôle. Alors je sais que quand on regarde le code monétaire et financier, c'est pas extrêmement clair parce qu'on parle d'investissement, mais quand on regarde bien le texte, c'est les investissements qui aboutissent à une prise de contrôle parce que 33% des parts ou acquisition de la majorité, etc. Donc c'est déjà un peu différent de ce qui est dit. Après, on peut discuter si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pas, dans tous les cas, à savoir est-ce qu'on est pour ou contre les investissements étrangers, est-ce qu'on est pour ou contre permettre la prise de contrôle d'entreprises dans des secteurs qui sont considérés effectivement comme étant stratégiques. Après, enfin, l'autre élément, juste pour terminer, qu'il faut souligner, alors toujours pareil, hein, moi je suis bête et méchant, je regarde le code monétaire et financier, en tout cas tel qu'il était à l'époque du décret Montebourg, c'est quand même une description de la loi qui est quand même très précise et qui parle d'acquisition qui mettrait en péril, alors, par exemple, la pérennité des réseaux économiques, la pérennité des réseaux d'énergie, la transmission d'énergie, le fait que les systèmes soient maintenus. Donc, en fait, le texte est plus précis qu'on peut le penser à premier abord. Après, la question, c'est qu'est-ce que va en faire le gouvernement actuel ? S'il fait juste une extension du périmètre des thématiques, je dis que ça vaut au moins le coup d'être regardé. Après, évidemment, s'il change totalement l'esprit de décret, c'est un tout autre débat.
Mais alors, si on revient à 2014, par exemple, le fait d'avoir empêché Yahoo de racheter Dailymotion, aujourd'hui, quel bilan on peut en faire, Séverin Naudet ?
C'était une énorme connerie, mais la réalité...
Une erreur, on dit en français.
Une connerie. La réalité en économie, elle est aussi la perception. C'est pas uniquement le détail des textes. Bien sûr que c'est quand on dépasse 33% et quand on prend le contrôle d'une entreprise. Sauf que, quand on a empêché Yahoo de racheter Dailymotion, ça a été un des plus mauvais signaux qu'on a donné aux investisseurs étrangers qui en sont restés traumatisés.
Et on n'a pas sauvé Dailymotion tellement pour autant, Dailymotion n'est pas mort.
Oui, on n'en est pas loin.
Yahoo n'est pas bien non plus. Hein.
En plus, vous en êtes un des cofondateurs à l'époque.
Le vrai sujet, c'est que on sait tous, pour ceux qui avons dirigé des entreprises post-Dailymotion et cherché des investisseurs étrangers, cherché des capitaux risqueurs pour faire venir de l'argent en France et voire même de faire du business quand on était français à l'étranger, c'est un poids qu'on a porté pendant des années et on n'a juste pas envie que ça recommence.
Est-ce que le problème, c'est la question, le patriotisme économique, donc défendre nos entreprises et pourquoi pas nos start-up, ou est-ce que c'est plus les moyens employés, la méthode ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Où faut-il mettre le curseur ?
Déjà, pour revenir dans l'exemple de Dailymotion, évidemment, c'est un cas qui n'est pas une histoire très, très glorieuse. Alors, pour être extrêmement précis, je crois que ça avait lieu plutôt en 2013 et que ce n'est pas lié au décret Montebourg.
Voilà. La conséquence conséquence.
Hein. Alors, tu en es la conséquence, en tout cas, c'est, on va dire, dans une espèce de voilà, d'état d'esprit qu'il y avait à l'époque. Et si on regarde
directement
après ça.
Directement bloqué par M. Montebourg lui-même.
C'est un peu plus compliqué, puisque après, de mémoire, le patron d'Orange, Stéphane Richard, avait dit lui-même que le deal proposé par Yahoo n'était pas satisfaisant, etc. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour dire.
Qui appartenait en partie Dailymotion.
Voilà, parce qu'il y avait un montage capitalistique qui était un peu compliqué. Il y avait France Télécom qui était, enfin, Orange qui était dedans. Orange qui était elle-même une entreprise avec des capitaux publics. Donc, c'était une histoire avec beaucoup de responsabilités. Après, comme je le disais tout à l'heure, pour faire un petit clin d'œil à Séverin Naudet, on peut pas dire non plus qu'Yahoo ait une très très belle réussite après. Donc, je pense que dans tous les cas, le sujet était compliqué. Après, quand on regarde ce qui s'est passé après l'adoption du décret Montebourg, on peut pas dire non plus que l'État ait passé son temps à empêcher des acquisitions dans tous les cas. Il y a eu finalement, à ma connaissance, un cas où ça a été utilisé. C'est dans le cas dans l'acquisition Alstom General Electric, et ça n'a pas été utilisé non plus pour bloquer l'acquisition, mais plutôt pour mettre des normes, pour mettre en place un rapport de force productif, enfin plutôt positif, qui a permis de mettre des garanties pour l'emploi. Donc
là, on confond juste Nestlé, L'Oréal et les startups françaises. La réalité, c'est que 60% des tours de table depuis 2013, des gros tours de table qui se font dans les startups françaises, viennent de capitaux risqueurs étrangers qui vont fuir si on prend ce genre de mesures. Et il y a un moment, on parle de Startup Nation, ça serait bien d'arrêter de se payer de mots. La Startup Nation la plus belle qu'on connaisse, c'est Israël. Je crois pas que on puisse penser ou considérer que Israël joue avec ses entreprises stratégiques et prenne des risques sur ses domaines stratégiques. Or, Israël a toujours tout fait pour qu'on puisse acheter toutes ces startups et puis pour les capitaux risqueurs.
D'ailleurs, ils ont été rachetés, Waze, etc.
Waze a été racheté 1 milliard, Mobileye a été racheté 800 millions par Intel. Israël fait tout pour faire venir les capitaux risqueurs racheter leurs startups. C'est ça, une Startup Nation.
Et en même temps, pour prendre une expression qui est à la mode dans l'air du temps, on observe quand même que les pays qui sont en capacité d'investir en France, que ce soit les Chinois, les Américains, les Canadiens, les Anglais, ils ont tous des dispositions législatives qui sont comparables à celles du décret Montebourg.
Oui.
Et avec, en plus, quand on regarde dans le détail, des définitions qui sont aussi larges et aussi floues quand on parle de secteur stratégique, etc. Et ça ne les a pas empêchés pour autant de faire des licornes, des grosses boîtes qui marchent et puis de continuer à investir.
Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser selon les cas, quand on veut.
Non, c'est quand on a un marché intérieur qui le permet. Quand on a un marché intérieur comme les États-Unis ou comme la Chine, évidemment, quand on est un acteur américain, on peut devenir un acteur global en utilisant juste les capacités de son marché intérieur et ses capitaux risqueurs intérieurs. On n'a même pas besoin d'avoir des filiales à l'étranger pour être un des plus gros acteurs mondiaux. Quand on est français, on ne peut pas faire ça.
Alors d'abord, du capital d'investissement, il y en a en France. Je crois que cette année, les fonds ont levé quelque chose comme 15 milliards, donc il y a quand même de l'argent. Et après, personne ne dit, et moi le premier, je suis d'accord avec toi, qu'il faut qu'on va faire une espèce de village gaulois.
Ils en viennent aux mains, ils se tutoient maintenant.
Voilà. Ce qui me semble important, c'est de dire qu'on n'est pas non plus dans une forme de naïveté, qu'on se donne des outils qui ne vont pas permettre systématiquement, qui ne vont pas aboutir systématiquement à bloquer des deals, mais qui vont servir dans certains cas, et je reprends l'exemple General Electric par exemple, à dire bah, on va mettre des conditions, on va faire en place un rapport de force, et ça ne veut pas dire qu'on bloque, ça veut dire qu'on n'est pas, je dirais, moins bête ou plus naïf que les autres. Ça me semble être une bonne voie si on l'utilise dans ce sens-là, en tout cas comme instrument de négociation.
Alors à l'un et à l'autre, Romain Piginel d'une part, Séverin Naudet d'autre part, on a compris que vous n'étiez pas forcément d'accord. Est-ce que le problème, est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord ou pas sur le fait que le problème derrière cette annonce n'est pas tout simplement un manque de compréhension du domaine entrepreneurial et particulièrement du numérique par notamment la classe politique, Séverin Naudet?
Ah, franchement, moi je considère que quand on arrive sur le sujet du numérique, si le ridicule tuait, on n'aurait plus aucun homme politique dans ce pays. Donc évidemment,
toute droite gauche confondue,
tout le monde. Alors franchement, tout le monde dans le même sac. Personne n'y comprend rien et les gens qui sont au pouvoir et j'en ai fréquenté quelques-uns, à quelques très très rares exceptions, comprennent cette économie. Et la preuve, encore une fois, c'est-à-dire qu'on met tout dans le même sac, on met tout dans le même panier, on fait des grandes annonces à grand renfort de communication. En mélangeant un sujet comme L'Oréal et Nestlé d'un côté et l'écosystème des startups de l'autre, tout ça n'a absolument rien à voir et ça a un effet désastreux en termes de communication et de perception sur les investisseurs étrangers.
Romain Piginel.
Moi, je partage plutôt l'avis de Séverin Naudet, c'est-à-dire que c'est quand même, pour l'instant, on n'a jamais été très très fort en France là-dessus, mais globalement, je trouve que ça va mieux. Ça va mieux parce que d'abord, et moi je l'ai vécu du mauvais côté du manche, je dirais, quand c'était le cas, des mouvements comme le mouvement des pigeons, ça a eu des effets positifs finalement, et ça a permis des prises de conscience. Et puis deuxièmement, on voit que le personnel politique, il change. Et ça, c'est un des effets quand même qu'on peut dire être positif de l'espèce de grand chambardement qu'il y a eu en France il y a un an. Il y a une nouvelle génération qui sont arrivées au pouvoir. Et il y a aussi, je pense, que l'idée qui s'est installée, que maintenant, on fera pas une carrière politique toute sa vie, et que on fera plutôt des phases où on ira dans l'entreprise, on ira en politique. Donc je pense que on est plutôt dans un bon train et que ça va plutôt aller en s'améliorant. En tout cas, on est dans une situation, je pense, plus positive qu'il y a 5 ans ou 10 ans pour prendre les deux majorités précédentes auxquelles on a tous les deux appartenu.
Alors à propos de ce sujet et de ce décret, rentrée. Tout le monde va être reçu, semble-t-il, dès demain par le pouvoir exécutif, notamment France Digitale, le Syntec Numérique qui représente le syndicat des patrons, en l'occurrence liés aux start-up, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe du macronisme, à savoir le fait que le président de la République est plutôt proche de ces milieux-là, proche des investisseurs, proche des start-up, etc. Et là, on sent que ces milieux-là ont mal réagi, ou en tout cas réagissent très mal à cette proposition, c'est vrai, Naudet ?
Bah, je crois qu'ils n'ont pas été consultés en amont, en réalité. Je pense qu'il y a eu une communication gouvernementale très forte sur un sujet, avec derrière cette notion de patriotisme économique, la France de retour sur la scène internationale, qui parle aux entreprises, qui parle aux entrepreneurs, qui protège son économie. En soi, tout le monde est d'accord avec ça, sauf qu'encore une fois, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, et comme d'habitude dans ce pays, mais ça c'est culturel hein, chez les politiques, pas plus ce gouvernement-là que les autres. L'économie numérique, dont je rappelle que c'est à peine 5% du PIB en France, alors que c'est 7,5 au Kenya, c'est 6,5 aux États-Unis, bah, c'est la dernière roue du carrosse. Donc on les appelle une fois qu'on dit « Ah, mince, on les a oubliés, on a balancé un truc et puis en fait, ils étaient encore là, eux, on a oublié de leur parler. » Donc bah, oui, on les reçoit après coup. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, comme disait Romain, comme rien de très précis n'a été annoncé, on pourra rectifier le tir.
Romain Pigenel.
Bah oui, et puis moi je crois que c'est aussi effectivement les limites, comme le disait Séverin Naudet, du concept de Startup Nation. Alors c'est un bel objet de communication, mais d'abord effectivement ça relève pas
d'abord,
forcément.
D'abord il a été pris par Israël déjà premièrement.
Si j'étais un peu provocateur, je dirais, mais est-ce que finalement la France, elle peut être une start-up nation ? Est-ce qu'elle doit l'être ? Est-ce que c'est son intérêt ? La France, c'est aussi un vieux pays. C'est un pays qui a des grandes entreprises, qui a des grandes industries. Elle va pas faire comme s'il était un pays de 10 millions d'habitants qui s'était inventé à partir de rien. Donc, je pense qu'on a aussi notre chemin à tracer, qui est un chemin où on fait une alliance fructueuse entre effectivement des start-upers, des entrepreneurs, mais aussi les grands groupes, et où on n'essaye pas de traiter chacun dans un canal, mais on essaye plutôt de faire des alliances entre les uns et les autres. Et c'est un peu, je dirais, comme dit le proverbe, l'homme n'est ni ange ni bête, qui veut faire l'ange fait la bête. Si on veut trop jouer à start-up Nation, sans forcément derrière avoir, je dirais, toute infrastructure QC, ben on arrive dans ce genre un peu de bug de communication où tout d'un coup, les gens se rendent compte, ah bah non, finalement, le milieu start-up n'était pas aussi connu que ça, etc. Mais je pense que voilà, c'est aussi ce concept qui pose problème et qui était peut-être plus un objet de communication finalement, quelque chose qui correspondait vraiment à la réalité française et peut-être à ce qui est souhaitable aussi pour le pays.
Quand on regarde les start-up européennes, on en a de très grosses. Je pense à Spotify dont on parlait tout au long de cette émission, de Deezer, de Sens Cloud, on peut parler de Dailymotion, ça a été fait tout à l'heure, et de beaucoup d'autres, dont certaines qui ont été rachetées par les Américains, parfois par les Chinois. On peut citer beaucoup d'exemples. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nécessité, malgré tout, d'essayer de défendre cette économie-là, Séverin Naudet ? Est-ce qu'il ne faut pas trouver des solutions pour que, au fond, on ne développe pas des start-up, on ne les finance pas, on ne les porte pas en France, pour que, finalement, dès qu'elles deviennent rentables ou dès qu'elles ont réussi, elles deviennent des cornes, mais non pas en Europe, aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de, au fond, de politique industrielle, même au niveau européen, que bon gré mal gré, ce décret tente de trouver des solutions par rapport à ça ?
Alors, oui, mais comme toujours, on est sur la défensive, on n'est pas sur l'offensive. Il y a 1500 milliards qui sont poussés vers l'assurance vie dans ce pays et pas vers le capital risque, par exemple. Donc, on pourrait flécher les investissements de manière beaucoup plus productive en France pour faire en sorte que les capitaux soient français et qu'ils investissent dans des entreprises françaises. Par ailleurs, je pense que on a plutôt à être fiers d'avoir un des pays où l'écosystème de start-up est un des plus beaux au monde et où les investisseurs et les entrepreneurs étrangers viennent voir pour trouver des produits, des services innovants. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ensuite, il n'y a pas toujours une capacité de la vieille industrie dont vient de parler Romain à innover, à créer les modèles de demain. Et ils les laissent passer. On va pointer du doigt personne, mais il y a eu beaucoup de gens qui, je me souviens pour Dailymotion, d'une époque où on parlait avec des industriels français qui nous avaient dit « Oh ben non, on va pas vous acheter parce que la vidéo, c'est une mode. » Voilà.
Mais on peut quand même citer Mythic, Skype, Nokia, qui étaient européens, qui sont devenus américains. On peut citer Deezer, on ne sait plus trop ce que c'est, ça a été russe et américain maintenant. Price Minister et Supercell, qui sont désormais japonais. Spotify, qui est souvent menacé. Pour terminer brièvement, Romain Piginal, on voit bien qu'il faut aussi défendre ces industries.
Ouais, évidemment, et je crois que ce qui est important aussi, justement, c'est pas être dans un patriotisme défensif que dans un concept d'état stratège, c'est-à-dire de réfléchir au coup d'après, c'est-à-dire dire on va pas nous faire le prochain Uber ou le prochain Facebook, la place est déjà prise. Par contre, voir sur les technologies d'avenir, on a parlé de l'IA, on peut parler aussi de la blockchain, qui est quand même quelque chose sur laquelle la France a des atouts à faire valoir. Et là, il faut effectivement avoir des logiques au niveau européen, avec une logique stratégique pour prendre un coup d'avance. Mais c'est sûr que si on veut faire du défensif.
Peut-être harmoniser la fiscalité en Europe pour commencer, non?
Et absolument. Et c'est ça la différence, c'est un état stratège et pas effectivement un patriotisme qui soit uniquement défensif et protecteur.
Bien, on va en rester là pour ce soir. Merci, merci infiniment à vous deux. Séverin Naudet, ancien conseiller numérique à Matignon, aujourd'hui consultant du cabinet de conseil Tilder. Romain Piginel, ancien conseiller de François Hollande, consultant numérique.
Co-fondateur de Futures.io.
Voilà, c'est
et on fait de la blockchain, ce petit instant publicité.
C'est le nom de la société de consultation, de consultance,
voilà.
on peut dire.
Bien beau mot.
Pour aller plus loin sur ces questions, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power. Dimanche prochain, nous parlerons de l'Italie, deux pays en un, deux pays pour une élection de tous les dangers.